quelles circonstances êtes-vous amené à Sigmaringen ?
En 1982, le soldat Martial Paoli se souvenait de son arrivée à Sigmaringen le 22 avril 1945.
Je suis arrivé à Sigmaringen parce que, étant dans la première armée française, cette armée, partie d'Afrique du Nord, a traversé la France et a fait la campagne d'Allemagne. Nous sommes donc arrivés à Sigmaringen et nous sommes arrivés, il n'y avait plus personne.
En effet, quand les troupes de la France libre pénètrent dans le refuge allemand des collabos, tout le monde a décampé. La mort aux trousses, la colonie des exilés s'est dispersée.
Il y avait un programme qui nous avait séduit. Travail, famille, patrie nous séduisait. C'est ce qui avait déterminé au départ notre engagement.
Le 31 mars 1945, les Alliés franchissent le Rhin et entrent donc en Allemagne. L'objectif militaire est clair, atteindre Berlin, capitale du Reich. Mais du côté de la France libre, on a aussi désormais un objectif politique. Le général Delattre de Tassigny veut entrer dans Sigmaringen et mettre la main sur ses collabos français qui se sont exilés en Allemagne, dont Philippe Pétain, l'incarnation du régime de Vichy. Un régime qui a condamné le général Delattre de Tassigny à 10 ans de prison en 1943. Au motif que ce dernier a désobéi au maréchal après l'invasion de la zone sud par les troupes allemandes en novembre 1942. En 1940, Delattre était un fervent maréchaliste. Et 5 ans plus tard, Sigmaringen apparaît comme le miroir sombre de ses erreurs passées. Alors sans doute y accorde-t-il une importance particulière. Mais à l'arrivée de ses soldats dans ce petit village du Bade-Württemberg, il n'y a plus personne. Alors, comment la colonie des réfugiés s'est-elle envolée de Sigmaringen ? Où ont disparu Philippe Pétain et Pierre Laval durant ce printemps 1945 ? Et à quoi ressemble la grande débandade des collabos ? C'est ce que vous allez découvrir dans ce nouvel épisode.
Aujourd'hui, sereine mais impitoyable, la France accuse. Et les visages de ceux qui croyaient faire de l'ouest de l'Europe le jardin de loisirs de l'Allemagne victorieuse sont blêmes.
Je m'appelle Philippe Collin et vous écoutez Le Crépuscule des Bourreaux. Sixième épisode, l'étrange débâcle.
Vous avez ployé le genou en terre en signe de dévotion envers le maréchal en qui la France s'incarne.
Tentons maintenant de nous approcher du wagon DSS. Aux fenêtres pendent à côté de drapeaux tricolores les drapeaux noirs marqués des deux SS en forme d'éclair.
Est-ce que ça vous gêne si on dit que en 1941 vous étiez un jeune fasciste ?
Non, ça ne me gêne pas.
Bon.
Les jeunes, après moi ! Vive le maréchal !
Je parle de Pétain, je parle de Laval.
Je souhaite la victoire de l'Allemagne.
Et je parle de Sigmaringen. C'est un moment de l'histoire de France qu'on voit venir.
Les jurés ont parlé. Oui, Pétain est coupable.
Ici Nuremberg.
La France vous demande que justice soit faite.
Le récit débute à la fin du mois de février 1945. Jacques Doriot, le Führer français, a été assassiné le 22 et ses obsèques au cimetière de Mengen ont sonné le glas de la collaboration.
Digno et justes, in nomine patris et filii et spiritus sanctus.
Amen. À Sigmaringen, le bruit des canons se fait de plus en plus pressant. Les alliés se rapprochent. Et pourtant, dans le journal pro-nazi créé par Jean Lucher, on persiste à entretenir la fiction d'un retournement.
Adolf Hitler dans le journal La France, le 26 février 1945. Il y a 25 ans, j'ai annoncé la victoire de notre mouvement. Aujourd'hui, pénétré de la même foi, je prophétise la victoire finale du Reich allemand.
Et au sein des collabos, on scrute le ciel en méprisant l'évidence. comme s'en souvenait François Crouzet en 1994.
Et ce qui était étonnant, c'est que chaque jour passaient des escadres entières de forteresses volantes tranquillement, parce qu'il n'y avait plus d'avions allemands pour les intercepter et pour les obliger à rebrousser chemin. Et chaque jour, ces avions passaient dans le ciel tranquillement pour aller écraser les villes voisines, c'est-à-dire Stuttgart et Nuremberg.
Sigmaringen n'est pas un objectif militaire. Donc le petit village n'est jamais bombardé, ce qui permet d'entretenir une forme de déni.
L'Allemagne ne sera pas battue. Jamais.
Mais quelques semaines plus tard, quand les Alliés franchissent le Rhin, la réalité du champ de bataille se révèle angoissante pour les collabos.
Et l'avance continue. Voici Baden-Baden, qui fut un temps la capitale des Vichysois et l'avant-dernier refuge de ce qu'il fut convenu d'appeler l'État français. Baden qui tombe aujourd'hui comme un premier mur.
Les troupes alliées progressent et le 12 avril, ils ne sont plus qu'à 190 km de Sigmaringen. C'est la panique et toute la colonie se pose les mêmes questions.
Faut-il choisir la fuite en espérant trouver un refuge ?
Bénédicte Vergès-Chaignon, historienne.
Alors possiblement en Suisse, ce serait le rêve, ce pays neutre, normalement ouvert à l'asile politique. Faut-il essayer de se mêler au flux des gens qui ont été emmenés comme prisonniers de guerre, qui ont été conduits en Allemagne au nom du service du travail obligatoire? Donc est-il possible de passer inaperçu au milieu de ces gens-là au moment d'un rapatriement? Et si on doit se constituer prisonnier, faut-il se livrer aux Américains parce qu'ils seraient plus indulgents, ou faut-il se remettre aux Français pour des raisons patriotiques? Mais n'est-ce pas plus dangereux?
D'autant plus dangereux que les collabos de Sigmaringen écoutent parfois la radio de la France libre.
Pour la première fois, le Conseil national de la résistance parle au peuple de Paris.
Que les têtes et traîtres tombent, parce que c'est la justice.
Emmanuel Dastier de la Vigerie, chef de la Résistance, 1944.
Que les biens des collaborateurs soient confisqués, soient saisis, parce que c'est la justice.
Ces menaces d'épuration sont d'autant moins prises à la légère que le 6 février 1945, Robert Brasillach, écrivain collaborationniste,
au commandement,
a été jugé, condamné à mort, puis exécuté au fort de Montrouge, au sud de Paris.
Bonjour.
Un vrai traumatisme pour les exilés de Sigmaringen.
Feu !
Armes au pied.
Et on a beau feindre la gaieté, le courage et même l'espoir. Quand on se rend compte qu'on est parmi les perdants et les perdants qu'on exécute, il y a de quoi réfléchir et frémir.
François Crouzet, 1994.
Et je me souviens fort bien de l'horreur éprouvée par Robatet. Et le soir où il a appris que Brasillach avait été fusillé, il a poussé un hurlement de désespoir, de chagrin, de rage, de colère. Il a grimpé l'escalier, sa chambre était tout en haut, juste sur le palier, en haut de l'escalier. Et il s'y est enfermé et on l'a entendu sangloter.
Lucien Rebattet, 1969.
C'est très triste à dire pour Robert, pour lequel j'avais énormément d'affection. C'est lui qui nous a sauvé la vie, en grande partie.
Comment ?
En mourant. En mourant le premier.
Il ne nous avait pas suivis à Sigmaringen ?
Non, il ne nous avait pas suivis. S'il nous avait suivis, je ne sais pas ce qui serait passé. Nous aurions probablement tous été flingués. Mais lui est mort. On n'a pas osé recommencer.
Rappelons que Brasillach fut un écrivain proactif pour le compte des nazis, un antisémite virulent, qui demeure une tâche infamante dans l'histoire des intellectuels français, au même titre que Rebattet.
Robert Brasillach, dans « Je suis partout », 9 avril 1943. Notre pays doit s'appuyer, on le sait, sur une réforme intérieure de l'État et de l'administration, sur une révolution nationale et sociale, puisqu'il ne saurait y avoir de place dans une Europe fasciste que pour une France fasciste. Nous l'avons dit 100 fois.
Revenons au mois d'avril 1945. Les jours passent et le 17, la première armée du général Delattre de Tassigny avance encore un peu et s'installe à Offenburg.
Bientôt, la bande est franchie, la forêt noire traversée et au cœur de Württemberg, c'est Sigmaringen qui s'ouvre devant les Français. Sigmaringen et son château qui, après avoir été celui des Hohenzollern, était devenu celui de la trahison, celui de Pétain, celui de Laval, celui de Déa.
Sigmaringen est dans la ligne de mire des Alliés, à moins de 150 km. Alors, dans quel état se trouve le vieux maréchal Pétain, perché au 7e étage du château des Hohenzollern?
Alors, lui, au contraire d'autres, il a pris depuis longtemps la décision de ce qu'il allait faire à l'issue de la chute du Reich, c'est-à-dire rentrer en France et se présenter devant la justice de son pays. Donc, le plus simple, à ses yeux, est de rester à Sigmaringen et d'attendre qui arrivera, que ce soit les Français ou les Américains. Les Allemands ne l'entendent pas de cette oreille. Apparemment, Hitler aurait voulu toujours le garder sous la main et on envisage de le déplacer pour le rapprocher du mythique réduit bavarois. C'est-à-dire que les Allemands, ou des Allemands, imaginent en avril 1945 faire une sorte d'ultime bastion, une place forte dans les montagnes bavaroises pour résister jusqu'à la dernière seconde aux armées alliées. Pétain ne veut absolument pas en entendre parler. Il ne veut d'une part pas être associé à l'écroulement du Reich dans une sorte de baroude de déshonneur finale. Et d'autre part, il ne veut pas perdre la vie dans ce genre de circonstances aussi inutiles qu'infamantes.
D'ailleurs, depuis 3 semaines, Philippe Pétain s'escrime à manifester une forme d'insoumission.
Lettre de Pétain à Hitler, le 5 avril 1945. Je ne puis, sans forfaire à l'honneur, laisser croire, comme certaines propagandes tendancieuses l'insinuent, que j'ai cherché refuge en terre étrangère pour me soustraire à mes responsabilités.
Ça explique pourquoi il veut rester à Sigmaringen, ça explique pourquoi les diplomates qui ont charge de sa personne veulent obéir aux ordres de leur hiérarchie. Je rappelle que dans cette période-là, désobéir pour un fonctionnaire allemand, c'est risquer sa vie et celle de sa famille.
Le maréchal ?
Le maréchal va être surpris. Surpris par l'heure. Il vous attend, bien sûr. Il va vous recevoir.
Soyez le bienvenu, Excellence. Asseyez-vous.
Donc, dispute, hésitation, et finalement, les diplomates allemands se résignent à proposer à Pétain de l'emmener en Suisse. Ce qui répond au fond à son désir d'éviter le réduit bavarois et de rentrer en France, peut-être à terme.
Donc, vers le 18 avril 1945, Philippe Pétain est parvenu à un accord avec les Allemands et il se prépare à quitter Sigmaringen pour la Suisse. Nous y reviendrons. Qu'en est-il de ses colocataires au château ?
Marcel Déa dans son journal. 24 mars. Décidément, les choses vont mal à l'ouest. 1er avril. Premier préparatif de départ. 18 avril. Nous partons dans un délai de 8 heures. Le murmure sourd du Danube monte jusqu'à nous. La petite ville est comme morte en son silence. Et on ne sait pas si, derrière les murs, des gens veillent, ni s'ils pensent et à quoi. Si pourtant il existait un baromètre psychique pour mesurer la pression du tragique sur cette immensité de ténèbres, à quelle graduation fantastique l'aiguille s'arrêterait-elle ?
L'ordre a été donné par deux lettres de Tassini de rejoindre Sigmaringen, évidemment pas pour des raisons militaires, mais pour des raisons politiques. À ce moment-là, pratiquement tout le monde est parti.
L'historien Henri Rousseau.
Tout ce petit monde va s'éparpiller. Alors, chacun va où il peut. Certains vont aller se cacher en forêt noire, d'autres vont partir avec certaines troupes allemandes. Bon, la division Charlemagne, elle, est déjà quasiment décimée sur le front de l'Est. Donc voilà, c'est une fin, c'est fini. Voilà, c'est une débandade, bien entendu.
Corinne Luchère, dans Ma drôle de vie, 1949. Il ne nous fallait guère compter que sur nos moyens personnels. Malheur à ceux qui n'avaient plus d'argent, qui n'avaient plus de voiture. Ceux-là étaient sûrs de leur affaire. Personne ne songerait à les dépanner et ils seraient cueillis sur place. Nous partîmes ainsi un jour, sans gloire, à l'aube de Sigmaringen, laissant derrière nous une partie des Français terrorisés.
Si les collaborationnistes du château s'éparpillent dans la panique, qu'en est-il des centaines de Français pétainistes, réfugiés eux aussi depuis des mois, dans ce village de Sigmaringen ?
Je ne sais plus exactement comment les choses se sont organisées à l'époque, mais je sais qu'un certain nombre de gens dont nous étions...
François Crouzet, 1988.
On réussit à fréter un vieux camion. On s'y est entassé à 20 ou 25, hommes, femmes et enfants. Et vaille que vaille, en brinque-ballant sur les routes défoncées et en zigzagant à travers les alliés qui attaquaient tout le temps sur toutes les routes, et en roulant surtout la nuit, nous sommes arrivés à la frontière suisse. Et ça a été la fin de l'aventure. Je ne veux pas dire que nous ayons été hébergés par la Suisse, dont l'hospitalité est une légende.
Est-ce que Sigmaringen, d'une certaine manière, ce n'était pas la fin du monde ?
Non, ce n'est pas du tout la fin du monde, c'est la fin d'un monde, c'est la fin d'une tragicomédie, d'une tragédie, si vous voulez, parce que Dieu sait combien de centaines de milliers d'êtres ont été impliqués, broyés dans cette tragédie, des deux côtés.
Parmi la cohorte des collabos, le bon docteur Destouches a pris soin de fuir avant tout le monde.
Céline, dans une lettre à André Brissot, mars 1945. C'est écrit, l'affaire est dans le sac. Les boches sont archi foutues. Emballer les os, planter un saule, les tripes d'un côté, les gambilles de l'autre. Adieu Sigmaringen, j'en ai mon compte. Terminer le balai des crabes pleins de poux. Je fous le camp en Norvège, au pôle Nord. Là-haut, je ne verrai plus leur face de pierrot et de champ-foutre. Je ne suis pas de l'anthracite ni de l'engrais pour les salades du gros Göring. Je ne me sens pas l'âme d'une Brigitte.
Comment Louis-Ferdinand Céline est-il parvenu à quitter Sigmaringen dès le 22 mars 1945 ? L'historienne Odile Roinette.
Il obtient une autorisation de quitter Sigmaringen avant donc l'arrivée de la première armée française grâce à un des pires personnages de la persécution nazie en France qui s'appelait Karl Bummelburg, hein, donc qui était le chef de la Gestapo à Paris.
jusqu'en novembre 1943, qui a joué un rôle important dans l'emprisonnement de Jean Moulin, qui a en particulier détenu Jean Moulin dans les deux dernières semaines avant sa mort, et qui a envoyé Jean Moulin mourir dans un train. C'est la figure du bourreau.
Moulin est mort ?
Oui, et il n'a pas parlé. Il était agonisant quand ses salauds l'ont mis dans un train pour Berlin. Il est mort en gare de Metz.
C'est un nazi pur. Il est ce Bummelburg responsable de la plus grande partie des déportations de Français en Allemagne. Et c'est lui qui va donner à Céline, parce qu'il est là-bas, l'autorisation de quitter Sigmaringen pour gagner le Danemark. Et Céline connaissait Bummelburg sous l'occupation. Il avait déjà des liens avec lui qui se sont prolongés à Sigmaringen. Donc c'est grâce à un des pires bourreaux de la Gestapo que Céline a pu quitter Sigmaringen.
Avec un laissez-passer signé pour traverser l'Allemagne jusqu'au Danemark.
Il va retraverser en fait toute l'Allemagne du sud au nord et gagner en environ 4 jours. Là, on a des informations relativement fiables sur ce voyage qui, par ailleurs, va nourrir ensuite, évidemment, les romans de la trilogie allemande.
Louis-Ferdinand Céline, dans Rigaudon, 1969. Maintenant, il fait nuit. On roule. Nous brûlons plusieurs stations. Aiguillage heureux, puisque nos boussoles varient pas. Nord-nord-est. Mais qu'est-ce qu'on avale comme panache? Ils le font exprès, c'est à croire.
Allez, les gars, on repart.
Droit sur l'ennemi.
Au soir du 21 avril 1945, les Alliés ne sont plus qu'à quelques encablures de Sigmaringen. Et une décision est prise par Delattre de Tassigny.
La première armée a à cœur que ce soit des Français qui soient les premiers à arriver à Sigmaringen.
Bénédicte Vergès-Chaignon.
Et donc, le général Delattre de Tassigny va demander au général Bétoir d'envoyer un détachement avec pour but la prise du château, si je puis m'exprimer ainsi, et quelqu'un qui non seulement ait des compétences militaires, mais qui sache réfléchir en politique, puisque les Français ne savent pas du tout ce qu'ils vont trouver à Sigmaringen. Trouveront-ils encore des gens à arrêter? Trouveront-ils des documents, voilà, tout est ouvert. Et donc, à la tête de ce détachement se trouve le commandant Charles Vallin. Alors, c'est une personnalité très intéressante, car il a été député du Parti social français du colonel de Larocque avant la guerre. Il a d'ailleurs voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain le 10 juillet 1940, et il a même appartenu à une sorte de conseil consultatif de justice qui devait éclairer le maréchal Pétain sur la condamnation à prononcer à l'encontre des hommes politiques de la Troisième République qui étaient jugés responsables de la défaite. Or, ce conseil consultatif, en 1941, avait émis des avis extrêmement réservés quant à des condamnations. Et Charles Vallin avait explicitement écrit « Attention à ce que vous leur ferez, ce que vous leur aurez fait, ils vous le feront ». Il était donc assez devin. Il se rapproche de Pierre Brossolette, bon, le résistant bien connu, qui l'emmène avec lui à Londres en 1942 pour qu'il se rallie au général de Gaulle.
J'ai eu le feu vert de Londres. Il ne nous reste plus qu'à connaître votre décision.
Vous savez bien qu'elle est prise. J'ai claqué la porte du gouvernement de Pétain. Mais est-ce que Londres veut vraiment de moi?
De Gaulle vous attend. Il me l'a confirmé personnellement.
toutes les bonnes volontés sont ardemment souhaitées pour libérer la France. Quand nous serons en Angleterre, j'appuierai votre intégration au Comité national de la France libre.
Il est accueilli avec un enthousiasme très très modéré, justement parce qu'il est à la fois un représentant de l'ancienne République, mais aussi quelqu'un qui a voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain et qui a fait partie d'instances officielles de Vichy.
Désolé, Brossolette, mais mon entourage me conseille vivement de lâcher Malin. Il ne siégera pas au Comité national de la France libre. Je l'enverrai faire le tour des colonies.
Et donc, finalement, ne pouvant pas tenir de rôle politique, il choisit de rejoindre les forces françaises combattantes et de terminer le parcours de la guerre au sein de l'armée. Et c'est ainsi que nous le retrouvons appartenant à la première armée et étant le premier à arriver à Sigmaringen.
Avancez.
Aux côtés de l'ancien député Charles Valin, désigné par Delattre pour entrer dans Sigmaringen, on trouve le jeune lieutenant de Bellefond, officier de la France libre, qui se souvenait en 1996 de son arrivée au château le 22 avril 1945.
Allez, allez.
Et quand on est rentré à Sigmaringen, on a vu quelques Allemands qui couraient de droite et de gauche, mais il n'y avait pas de résistance organisée. Et moi, je suis parti droit sur le château avec mon peloton et je suis arrivé devant le château, sur le perron. J'ai fait monter une automitrailleuse juste en face de la porte du château pour regarder ce qu'allait se passer. Moi, j'étais prêt à tirer un coup de canon dans la porte si elle ne s'ouvrait pas assez vite. La porte s'est ouverte et j'ai vu une espèce de grand monsieur habillé tout en noir qui était un espèce de concierge, majordome et tout ce que vous voulez et qui a pris un air très étonné en disant « qu'est-ce que vous désirez ?» Alors moi je l'ai écarté de la main, je suis rentré et je lui ai dit « je veux voir ce qu'il y a ici, où est Pétain ?» Et il m'a répondu en français « le maréchal Pétain est parti cette nuit ».
Ce qu'il constate, c'est que le château comme la ville sont vides de Français et qu'il n'y a pas non plus grand-chose en termes de documents et d'archives à saisir. Ce qui est assez drôle, c'est que sans rupture, les soldats français, les soldats aussi des troupes coloniales françaises, sont hébergés là où vivaient quelques jours, quelques heures auparavant, les réfugiés français de Sigmaringen.
Il était normal qu'ils aboutissent là, dans cette bourgade de Wurtemberg, bruyante aujourd'hui du bruit des chars français. Qu'ils se réfugient ici, dans ce château des Hohenzollern, les hommes qui, par peur, par ambition ou par bassesse, ont trahi la France et les Français. La route de Vichy conduisait à Sigmaringen.
La déception est grande pour les troupes de la France libre. Il n'y a plus un chat à Sigmaringen et pas l'ombre d'un document. Rien. Si ce n'est deux roses jaunes fanées dans un vase et une bouteille de Vittel à moitié vide dans la chambre du maréchal. Philippe Pétain a quitté le château la veille au matin, comme le confiait son chauffeur en 1996.
Nous sommes partis de Sigmaringen le 21 avril 1945. On devait partir à 6 heures, mais nous ne sommes partis qu'à 8 heures. La Gestapo était en retard, pour une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et nous sommes partis direction Bregenz.
Le 22 avril, le maréchal est donc déjà en route vers la Suisse, qui a accepté de lui accorder l'exil au nom de son prestige. Pétain passe par Bregenz, où il croise par hasard la famille Luchère, Jean, son épouse, et leur fille Corinne, eux aussi en déroute.
Corinne Luchère, dans Ma drôle de vie, 1949. Le maréchal, en civil, descendit de voiture, fit quelques pas sur la route, sans adresser la parole à qui que ce soit. La maréchale paraissait très triste, mais Pétain offrait, comme à l'habitude, un visage impénétrable. Il embrassa le paysage de son œil sans couleur. Il ne sembla pas remarquer que toutes les têtes s'étaient découvertes et il ne rendit pas le salut. Puis il remonta en voiture et nous le vîmes s'engager vers le poste frontière qui s'était ouvert à l'arrivée de l'ancien chef de l'État français. Philippe Pétain vivait ses dernières heures de liberté.
Bon, laissez passer.
Il devait être 9h30, 10h. Alors c'était justement l'anniversaire du maréchal.
Effectivement, le jour de l'anniversaire du maréchal Pétain, ce qui lui vaut d'être accueilli par des chocolats et des bouquets de fleurs, par une population très chaleureuse, et cet accueil particulièrement réconfortant, mêlé au soulagement, bien sûr, d'être hors de danger, vont sans doute créer chez lui une illusion. Car comme il s'y était décidé, il refuse de demander l'asile politique en Suisse et il demande immédiatement à rentrer en France, ce qui a lieu le lendemain. Et là, Philippe Pétain est très surpris par l'extrême froideur de l'accueil qui lui est réservé, d'abord par le général Koenig, le gouverneur militaire de Paris qui a été chargé de venir s'assurer de sa personne. Et il est aussi douloureusement surpris par l'hostilité des manifestations qui se produisent lors de son trajet. Il entend des insultes, son train est caillassé et il ne s'attendait pas du tout à cela. Néanmoins, bon, il reste sur sa ligne qui sera constante lors de son procès, de se présenter devant la justice et de fournir ses explications sur ce qu'il a fait entre 1940 et 1944.
Actualité française, 27 juillet 1945.
Il y a 3 mois, le maréchal Pétain, renvoyé par Hitler, venait se livrer à la France. À la frontière suisse, le général Koenig prenait livraison de celui qui avait profité de notre défaite pour supprimer la République d'un trait de plume.
Le 26 avril 1945, Philippe Pétain a donc choisi de se rendre et il est en route pour Paris, où le maréchal veut se défendre devant la justice française. Au même moment, après avoir dû abandonner le manoir de Wilflingen devant l'avancée des Alliés, Pierre Laval se torture les méninges.
Laval veut à tout prix éviter d'être capturé par les armées françaises, par Delattre, et donc il cherche une issue.
L'historien Renaud Meltz.
Et il commence une errance le 21 avril où ils partent vers le sud.
Soyez optimiste, je le suis bien, moi.
Et l'obsession de toute cette petite colonie qui est en train de se disperser aussi d'ailleurs de Sigmaringen, c'est la Suisse. Et donc ils vont en plusieurs étapes essayer de se rapprocher vers la Suisse. Laval a fait une demande qui est acceptée théoriquement pour pouvoir transiter en Suisse et être maître de son destin. Et c'est ainsi qu'il descend vers une petite bourgade qui s'appelle Wangen, qui se rapproche du lac de Constance et de la frontière suisse. Et là, il y a des épisodes un peu drôlatiques, puisque la Gestapo continue à les suivre, et un diplomate allemand vient à Wangen ordonner à Laval de partir vers le réduit bavarois. Laval refuse, fait une scène épouvantable aux Allemands, demande au chauffeur s'il le faut de crever les pneus de sa voiture pour empêcher les Allemands de conduire de force vers le réduit bavarois. Et le diplomate finit par céder, Eugénie l'insulte avec une phrase bien caractéristique de ce sentiment un peu supériorité des Français. Même chez les Zoulous, on respecte un président du Conseil, vous parlez à un président du Conseil, vous ne l'obligez à rien. Et donc le diplomate finit par s'excuser et proposer de loger sinon à l'hôtel dans cette petite bourgade, au moins chez le bourgmestre de Wangen, le couple Laval qui refuse et qui passe la nuit dans la voiture sous une pluie froide d'avril. Vous voyez, l'équipée est de plus en plus grotesque. Et d'ailleurs, on retrouve à Wangen d'autres échappés de Sigmaringen, et notamment les Luchères. On connaît du coup ces détails, notamment à travers le récit de Corinne Luchère. Et au petit matin, qu'est-ce qui se passe sur cette place du village de Wengen? Un attroupement de travailleurs français du STO qui reconnaissent Pierre Laval. Et là, ça peut mal tourner, ça commence très mal, puisque les travailleurs français ont le sentiment qu'ils ont enfin mis la main sur le traître qui leur a imposé cette solution du travail obligatoire en Allemagne. Et là, c'est une scène clé pour comprendre ce qui va se passer par la suite, parce que Laval va réussir à retourner la situation par le génie encore de son verbe un peu populeux. Et face à ces Français, il va expliquer la situation, qu'il s'est sacrifié, qu'il a fait ce qu'il fallait pour empêcher le pire, que sans lui, ça n'aurait pas été le travail obligatoire, mais des camps. Et retourne effectivement la situation, la grande admiration des Français de Sigmaringen, qui le regardaient pourtant parfois avec dédain. Corinne Luchère le voit retourner la situation, au grand soulagement de tous, que ça aurait pu finir en lynchage, en pugilat.
Il s'approcha d'eux très crânement et il leur parla. Au début, sa voix fut couverte par les huées, puis le silence se fit. Ce fut probablement un de ses derniers discours. Et les hommes qui étaient venus pour le huer, et peut-être même pour lui faire un mauvais parti, se taisaient et l'approuvaient, et finalement, venaient lui serrer la main. Laval s'entretenait avec les garçons, familièrement, leur demandant des nouvelles de leur famille, leur parlant de leur travail, leur expliquant qu'ils seraient de nouveau bientôt chez eux et que leur sacrifice n'aurait pas été inutile.
J'aime bien être avec vous, mais... J'aime bien, je me sens bien.
Alors, je vis un spectacle étonnant, dont je me souviendrai longtemps. Ces ouvriers s'étaient maintenant rangés autour de Laval et, pressentant les dangers qui le menaçaient, lui demandaient de rester parmi eux.
Et ils finissent même par lui dire, écoutez, venez avec nous, monsieur le Président, on vous protégera, on leur expliquera aux gars du pays ce que vous avez fait. Laval remercie, refuse, mais en tire une espèce de supplément de confiance en soi, de sa capacité à retourner l'opinion. Il entend à la radio, jour après jour, la haine qui le vise, mais il se dit que finalement, s'il avait un jour l'occasion d'avoir un procès équitable, il pourrait retourner la situation. Et finalement, l'équipée donc, se continue vers le sud, vers la Suisse. La Suisse ne répond pas. Laval sollicite l'asile en Espagne. La Suisse finit par lui proposer effectivement une possibilité de passer par le territoire helvétique. Mais lorsque les Laval, du coup, très soulagés, arrivent à la frontière, finalement, l'officier qu'ils rencontrent leur refuse l'entrée sur le territoire. Et donc, voilà les Laval qui sont, à la fin du mois d'avril, en suspens. Et au moment où il pense ne plus avoir d'espoir, un double Deus ex machina, une réponse de l'Espagne qui accepte d'accueillir les Laval et le reste du ministère normand d'une part, et surtout un avion mis à la disposition, c'est-à-dire que les Allemands, au moment où on est donc au tout début du mois de mai, c'est-à-dire au moment où il n'y a plus aucun moyen quasiment militaire, ils arrivent à trouver un avion qui a suffisamment de carburant et de pilotes pour les emmener en Espagne.
On y va.
Début mai 1945, Pierre Laval s'apprête à atterrir à Barcelone. Comment expliquer qu'il soit parvenu à trouver refuge en Espagne?
Alors Laval est un Auvergnat qui n'est pas très intéressé par le monde extérieur. Il ne connaît aucune langue sinon l'espagnol, qu'il parle relativement bien. Il avait une sœur qui vivait tout près de la frontière espagnole, dans le sud-ouest, et donc il a un goût pour l'Espagne. Le seul voyage touristique qu'il ait fait dans sa vie est en Espagne, donc il est parti avec Eugénie et José quand José était enfant en Espagne. C'est un pays pour lequel il a une vraie appétence, il a des affinités. Ça, c'est un premier, on va dire, niveau élémentaire, le goût pour l'Espagne. Mais il y a une autre considération, c'est que finalement, dans le raidissement du Laval post-1935, c'est-à-dire celui dont le gouvernement est tombé, qui juge responsable les Anglais de sa chute et le Front populaire, l'espèce de modèle, non peut-être pas idéal, mais en tout cas qui l'inspire dans cette Europe polarisée entre des démocraties libérales faiblardes, d'une Union soviétique de plus en plus conquérante et menaçante, et surtout l'axe des pays fascistes, eh bien, pour lui, l'idéal, ce n'est pas l'Italie de Mussolini et moins encore l'Allemagne nazie, mais c'est plutôt la solution nationaliste et autoritaire de Franco.
hay una raza y hay un pueblo. ¡Arriba España!
Et d'ailleurs, il a comme un viatique toujours par-devers lui une lettre de Franco qu'il remercie de prendre la défense de son régime. Et Franco garde une espèce de dent contre cette Troisième République qui était plutôt du côté des Républicains et a une forme de reconnaissance pour Laval.
Télégramme du général Franco à Pierre Laval, 2 mars 1939. À l'heure de la victoire, nous ne pouvons que féliciter les bons Français qui ont tant lutté pour sauver l'amitié des deux peuples. À vos efforts dans ce sens correspondent mes plus sincères sentiments envers votre nation et une loyale amitié.
Puis il y a un deuxième élément à la fois politique et personnel, c'est qu'il n'y a pas seulement donc cette affinité pour l'Espagne et l'affinité pour le régime de Franco, mais il y a une grande familiarité pour l'ambassadeur de Franco à Vichy, Lequerica, qui est un vraiment proche de la famille Laval et Chambrun. Quelqu'un qui a reçu très souvent chez José et René de Chambrun, qui fréquente assidûment Laval. Il y a une amitié, vraiment, enfin, je ne sais pas si Laval a des amis, mais en tout cas une familiarité, une intimité entre eux. Et il se trouve que Lequerica, à ce moment-là, devient pour quelques mois le ministre des Affaires étrangères de Franco. Et c'est probablement lui qui va faire pression sur le gouvernement de Franco, qui n'a pas tellement intérêt à mécontenter les alliés, pour que Laval soit accueilli chez eux. Sans doute que c'est un peu une offre de Gascon. C'est-à-dire que les Espagnols offrent en signe de reconnaissance des services passés de Laval l'asile en Espagne, mais ils ne pensent pas qu'il aura le moyen de trouver un moyen de venir en Espagne. Et ils sont très surpris qu'en début mai, l'avion affrété par les Allemands traverse la Méditerranée et arrive à Barcelone et se pose avec ce colis encombrant qu'est Laval.
Au moment même où Philippe Pétain passe la frontière franco-suisse, à Valorbe dans le Jura, le 26 avril 1945, Adolf Hitler, lui, s'est retranché dans son bunker à Berlin. À quoi ressemblent ces derniers jours ?
Rejoignez vos quartiers, mesdames.
L'historien Olivier Viedjorka.
Ben, ce sont des derniers jours assez lugubres. Parce que même si Hitler a jusqu'à la fin cru au miracle, eh bien il doit aussi constater l'évidence. Il a perdu la guerre, donc l'ambiance dans le bunker est absolument lugubre. Eva Braun va essayer un peu de l'égayer, hein, sa compagne, mais les mines sont graves. Et les mines sont d'autant plus graves que, d'une part, des intrigues se nouent via Göring, via Himmler, pour prendre le pouvoir ou ce qu'il en reste.
L'Ouest a besoin du nazisme et de mes SS pour établir l'ordre en Europe. Il me suffit de passer une heure avec Eisenhower et il sera convaincu. J'ai déjà des contacts. Quand je verrai Eisenhower, qu'est-ce qui vous paraît le plus approprié ? Le salut hitlérien ou la poignée de main ?
Donc il y a aussi pour Hitler le sentiment d'une trahison et d'être trahi par ses plus fidèles. Et d'autre part, il y a aussi pour les dirigeants allemands la crainte de devoir aussi rendre des comptes.
Maintenant, nous devons agir. C'est notre ultime chance d'en échapper. Vous ne pensez qu'à sauver votre tête ?
Ne parlez pas sur ce ton.
Donc ces éléments créent dans ce bunker une atmosphère crépusculaire. D'autant que c'est un bunker, on est quand même sous terre, on n'a pas la lumière du jour. Donc tous ces éléments ne font que renforcer cette impression de confinement et cette impression de crépuscule.
L'aviatrice Anna Reitsch présente dans le bunker d'Hitler le 26 avril 1945. Sa tête était inclinée, son visage d'une pâleur mortelle et ses mains tremblaient violemment. Il tenait à la main le télégramme de Göring, lui annonçant qu'il assumait désormais tous les pouvoirs du Reich.
C'est de la trahison, mon Führer, de la haute trahison.
Puis chaque muscle de son visage commença à se contracter. Son souffle devint court et oppressé. Ce n'est qu'avec la plus grande difficulté qu'il parvint à se dominer et à s'écrier « Un ultimatum. Ce n'est qu'un ultimatum. Rien ne m'aura été épargné. Tout est consommé. » Il n'y aura pas une injustice que je n'ai subie.
des amants funestes, actes de corruption de notre stade de meubles de mort. Und jetzt das Verrat an meiner Person. An meiner Person.
Quelques jours plus tard, le 1er mai 1945, sur les ondes de la radio allemande,
Deutsche Männer, Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht.
L'amiral Dönitz annonce la mort de celui qui a précipité l'Europe vers l'apocalypse.
Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen.
Le 30 avril 1945, Hitler se suicide. Dans quelles conditions, Olivier ?
Bien entendu, Hitler s'est juré de ne pas être capturé. On imagine aux yeux du monde ce qu'aurait été la capture du dictateur et son jugement. Vous avez même d'ailleurs un auteur, un historien allemand qui s'appelle Bernd Wegener, qui parle d'une chorégraphie de l'effondrement. C'est-à-dire que Hitler pense que le monde qu'il a créé doit mourir avec lui, ce qui explique ce qu'on appelle l'ordre Néron, qui était de détruire l'ensemble des infrastructures allemandes, mais ce qui explique aussi sa fin.
Ici quelqu'un.
Eric, il me faut de l'essence, 200 litres au moins.
Quoi ? Mais tu as perdu la tête ! Où je trouverai 200 litres d'essence ?
Débrouille-toi, siphonne les réservoirs des véhicules dont personne n'a besoin.
Pourquoi il te faut autant de carburant ?
Je regrette, je ne peux pas te le dire.
Donc il va avaler une capsule de cyanure, se tirer une balle dans la tête et ordonner que sa dépouille soit brûlée, car, bien entendu, son corps ne doit pas tomber intact aux mains de l'ennemi. Il faut souligner de ce point de vue que Staline est très obsédé à l'idée d'être certain que Hitler est mort, et il va tout faire pour qu'on rapporte des dépouilles au Kremlin. Et effectivement, on retrouve quelques restes, dont sa mâchoire. Et cette mâchoire, elle va être confiée à des personnels féminins, tout simplement parce que les hommes du NKVD ont l'intention de bien profiter de la victoire pour, il faut le dire, se saouler, et qu'ils se disent que les femmes seront beaucoup plus raisonnables. Et c'est donc effectivement ces restes qui sont renvoyés au Kremlin et qui sont encore aujourd'hui dans les locaux du FSB.
Avant de mettre fin à ses jours, Hitler a pris soin de rédiger un testament en deux volets. D'abord, un volet public.
Testament politique de Hitler, Berlin, 29 avril 1945. Avant ma mort, j'expulse hors du parti l'ex-maréchal d'Empire Hermann Göring et le déchois de tous les droits. Avant ma mort, j'expulse hors du parti l'ex-Reichsführer SS et ministre impérial de l'Intérieur Heinrich Himmler et le démet de toutes ses fonctions d'État.
Hitler commence par régler ses comptes et renie ses sbires. Ensuite, il veut s'assurer que ses théories racistes vont lui survivre.
Par-dessus tout, je fais un devoir au commandement de la nation et à sa mouvance d'observer scrupuleusement les lois raciales et de résister impitoyablement à l'empoisonneur mondial des peuples, la juiverie internationale. Fait à Berlin, le 29 avril 1945, à 4h. Adolf Hitler.
Vous avez dans ce testament deux parties, une partie publique, une partie privée, et il faut souligner la très grande brièveté de ce testament. Ce sont quelques pages. Donc, dans le testament dit public, il justifie l'ensemble de ses crimes, et il nomme l'amiral Dönitz comme successeur. Il faut souligner que Dönitz, qui n'écopera que de 10 années de prison, est considéré comme, au fond, un militaire apolitique, et c'est un peu l'image qu'il essaye de donner dans ses mémoires. En fait, c'est un nazi convaincu. Je veux dire, Hitler ne s'est pas trompé en nommant Dönitz, qui est un fidèle des fidèles, c'est un nazi convaincu. Et dans le testament privé, il annonce qu'il a épousé Eva Braun, qu'il remet ses biens au parti et sinon à l'État, et il émet un souhait. Il a rassemblé, ou pour être beaucoup plus exact, pillé les trésors de très nombreux musées dans l'idée de créer à Linz un musée, et il souhaite dans ce testament privé que ce musée voit le jour. Enfin, il nomme le secrétaire de la chancellerie, Martin Bormann, comme exécuteur testamentaire.
«
Ça y est, c'est fini.
Message de service de Lee Miller pour Audrey Weavers à Vogue.
Bon, je vous joue quelque chose, les gars ?
Je vivais dans l'appartement d'Hitler quand on a annoncé sa mort, en pleine nuit du 1er mai.
Bienvenue dans l'humble demeure d'Hitler.
On ne pouvait pas faire plus la fête qu'on ne le faisait déjà. C'était à minuit.
Merci.
Le 1er mai.
Cigarette ?
Il neigeait.
Ah, ouais, merci.
Adolf Hitler s'est donc suicidé dans son bunker. Un geste que reproduisent dans la foulée Joseph Goebbels et son épouse Magda, non sans avoir assassiné leurs 6 enfants, dont tous les prénoms commençaient par un H, en hommage à leur Führer bien-aimé. Enfin, que dire du sort des autres dignitaires nazis en ce début mai 1945 ?
En mai 1945, savoir ce que deviennent les principaux dignitaires nazis est un peu compliqué. Tout dépend de ce que l'on entend par dignitaire nazi. Il faut déjà le souligner, vous avez une vague de suicides absolument colossale qui déferle sur l'Allemagne tout entière et qui va toucher un certain nombre de généraux, un certain nombre de Gauleiter, c'est-à-dire des espèces de super préfets qui gèrent les provinces. Donc vous avez tout simplement une partie des dignitaires nazis qui choisit la mort.
La capitulation a été prononcée. La guerre est finie. Tout est fini.
L'autre partie, elle essaye de se cacher pour échapper à la justice des Alliés. Et in fine, en règle générale, à part quelques exceptions, ces dignitaires nazis sont capturés soit par les soviétiques, soit par les anglo-américains. Ces dignitaires capturés seront jugés. C'est ce qui a été décidé dès 1944. Il fallait que la justice passe. Et l'idée est bien entendu de déférer à la barre d'un tribunal les principaux dignitaires du régime nazi.
Nous n'avons commis aucun crime. Nous avons tout simplement suivi la logique de l'histoire européenne. Et d'éminents philosophes et hommes d'église peuvent témoigner pour nous défendre.
En conclusion de ce sixième épisode, retenez d'abord que la colonie des collabos s'est éparpillée, comme une nuée des tourneaux affolés, devant l'entrée des troupes de la France libre dans Sigmaringen. Dans la panique, certains se sont réfugiés en Italie, comme Marcel Déa et Jean Lucher. D'autres naviguent en Autriche, entre la Forêt Noire et le réduit bavarois, à l'image de Fernand de Brinon ou de Lucien Rebatté, qui cherchent à échapper aux Alliés. Pierre Laval, lui, s'est mis à l'abri chez Franco en Espagne. Et Philippe Pétain est en cellule au fort de Montrouge, où il attend son procès. Les derniers fuyards sont aux abois, d'autant que la mort d'Hitler a brisé le cercle infernal. Et après la capitulation allemande, le 8 mai 1945, les Français, qui ont tant souffert durant ces années noires, aggravés par la collaboration du régime de Vichy, attendent avec impatience l'étape suivante.
Au lendemain de la libération, il n'était pas de tâche plus urgente et plus importante que le châtiment des traîtres et des collaborateurs.
Quel sort attend les différents acteurs de la collaboration devant la justice républicaine ? C'est l'horizon du prochain épisode. Le crépuscule des bourreaux, un récit de Philippe Collin, réalisé par Juliette Medevielle. Lecture, Elsa Lepoivre, de la Comédie Française. Assistance éditoriale, Irène Menahem, Fanny Petit et Alice Doucerin. Documentation sonore, Frédéric Martin. Prise de son à Sigmaringen, Gilles Gallinaro. Mixage, Basile Bocquer. Prochain épisode, le châtiment des traîtres. Le crépuscule des bourreaux est un podcast original de France Inter.